Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Nous constatons depuis 10 jours une baisse réelle de la circulation virale. Le pic de la troisième vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée.
Une petite éclaircie, mais encore beaucoup de nuages. La météo de l'épidémie incite Jean Castex à rester prudent. Pas de calendrier précis pour la réouverture des terrasses, commerces et lieux culturels. En revanche, la rentrée scolaire pour les maternelles et primaires se fera bien lundi, avec un protocole très strict, fermeture de classe au moindre cas et deux fois plus de tests salivaires. Point complet sur toutes ces annonces et réactions dès le début de ce journal. Si le gouvernement reste flou sur les modalités du déconfinement, il est à l'inverse plus précis. Sur la fin progressive des aides, la prise en charge par l'État de l'activité partielle va diminuer à partir de juin pour les secteurs non protégés. Ils sont en colère et le font savoir en ce moment même. Les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer dénoncent les conséquences du Brexit. L'accès aux eaux anglaises leur est toujours interdite. Au sommaire également, le procès des 18 policiers de la BAC Nord de Marseille accouche d'une souris. 7 relaxes et 11 condamnations à des peines de prison avec sursis. Joe Biden en sauveur de la planète, le président américain très ambitieux au sommet sur le climat. Et puis les Girondins de Bordeaux lâchés par leurs propriétaires. Le destin du club est entre les mains du tribunal de commerce. La météo, elle sera printanière demain sur la moitié nord du pays avec beaucoup de soleil. En revanche, il y aura des nuages au sud de la Loire, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,91% à 6267 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview éco dans 20 minutes s'intéressera aux solutions innovantes pour faire sortir l'épargne des Français et ainsi relancer la croissance. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Bertrand Dumazy, le PDG d'EdenRed, la maison mère des tickets restaurants. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était donc ce soir le grand retour de la conférence de presse du jeudi avec son lot d'annonces et d'incertitudes, de bonnes et de mauvaises nouvelles à l'image de la situation sanitaire qu'a décrite le Premier ministre Jean Castex.
La situation sanitaire s'améliore dans notre pays. Nous constatons depuis 10 jours une baisse réelle de la circulation virale. Le pic de la troisième vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée. Le niveau de circulation virale se réduit, mais il reste élevé dans une très large partie du pays. 15 départements ont un taux d'incidence encore supérieur à 400 pour 100 000 habitants et 30 autres départements se situent entre 300 et 400. Nous devons donc rester lucides sur la situation est pleinement mobilisée pour poursuivre nos efforts.
Ça va donc un peu mieux, mais pas suffisamment pour se laisser aller. La décrue de l'épidémie est deux fois moins rapide qu'en novembre dernier. Deux confirmations tout de même ce soir. Les restrictions de déplacement en journée seront levées le 3 mai et les élèves de primaire et de maternelle retourneront bien à l'école dès lundi, mais avec un protocole sanitaire très strict, Anne Le Gall.
Voilà, et les lycéens et collégiens resteront donc à distance lundi. Ensuite, le 3 mai, les collégiens retrouveront aussi les salles de classe, sauf les élèves de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie qui passeront en demi-jauge, c'est une nouveauté, tout comme les lycéens sur tout le territoire. Concernant le protocole, donc, il sera strict. Fermeture de la classe dès l'apparition d'un seul cas de Covid et des tests vont être déployés de façon massive. Le nombre de tests salivaires va doubler pour les écoliers et les collégiens pour atteindre 600 000. Côté lycée, des autotests vont être distribués dès le 10 mai. L'Éducation nationale en a commandé plus de 50 millions. Enfin, un mot du bac, les épreuves de philo et le grand oral sont maintenus.
En revanche, Anne, Jean Castex est resté très prudent concernant la possible réouverture à la mi-mai des commerces, terrasses et lieux culturels et sportifs.
Voilà, le calendrier n'est pas encore fixé. Ces activités culturelles, sportives, les terrasses pourraient ouvrir sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et ça pourrait se faire de façon territorialisée en fonction des chiffres, a confirmé le Premier ministre. Des concertations vont avoir lieu avec les professionnels des différents secteurs. Enfin, concernant la vaccination, 2,5 millions de Français sont en mesure désormais de se faire vacciner chaque semaine. L'objectif des 20 millions de vaccinés mi-mai et des 30 millions de vaccinés mi-juin est donc maintenu.
Merci Anne Le Gall. Gall, spécialiste santé d'Europe 1. C'était donc l'annonce principale de cette conférence de presse, le protocole sanitaire pour le retour en classe des élèves. Il est strict et c'est tant mieux, réagit Guylaine David, co-secrétaire du syndicat des instituteurs FSU SNUIPP.
La première mesure qui vise à rassurer, c'est la définition de la fermeture d'une classe lorsqu'il y aura un cas positif. Ça laisse moins la possibilité, on va dire, entre guillemets, au virus de rentrer dans l'école. Il y a des choses qui sont rassurantes, ce sont ces choses-là. Hein, si elles sont mises en œuvre dès lundi, ça permettra de rassurer à la fois les enseignants et les familles. Par contre, il y a encore des manques dans ce protocole, notamment la question de l'aération des salles de classe et des capteurs de CO2. Oui. Il n'y a pas assez d'incitation pour les communes de les mettre en œuvre. On sait que ça coûte cher, mais il faudrait que le gouvernement puisse financer et aider au financement de ces capteurs de CO2. On a toujours le problème de la cantine, vous savez, qui est un endroit où malheureusement le virus se propage parce que les enfants sont non masqués. Et puis, il y a la fameuse question qui reste toujours en suspens, celle de la vaccination des personnels enseignants qui ne sont pas déclarés comme prioritaires.
Guylaine David, co-secrétaire du syndicat FSU SNUIPP, qui était ce soir l'invité du 18-20 d'Europe 1 de Julien Bugier. On le disait à l'instant, toujours pas de date de réouverture pour les commerçants. En revanche, le gouvernement réfléchit déjà à la sortie de crise, à la levée progressive des aides qui maintiennent l'économie française sous perfusion. Les ministres de l'économie et du travail ont notamment annoncé aujourd'hui que la prise en charge par l'État de l'activité partielle allait prochainement baisser pour les secteurs les moins touchés par la crise. Emmanuel Dutheil.
Oui, actuellement, le montant du salaire des personnes en activité partielle représente 84% du salaire net, le tout en grande partie pris en charge par l'État. 15% du montant incombe aujourd'hui aux entreprises. Mais voilà, pour les secteurs non protégés, donc pour tous ceux qui ne sont pas fermés par décision administrative, eh bien, la contribution de l'État va baisser à partir du mois de juin. Le reste à charge va passer alors de façon progressive sur plusieurs mois à 40% pour les entreprises. Et seulement 72% du salaire sera pris en charge à ce moment-là. Plus largement, le gouvernement réfléchit à la sortie de crise avec cette question à plusieurs milliards d'euros. Quand arrêter les aides sans casser la reprise économique? Et je peux vous dire que cette question donne des sueurs froides à Bercy. Sans activité partielle, sans fonds de solidarité, sans report de charges, des milliers d'entreprises se seraient effondrées. Seule certitude, il va sûrement falloir faire du sur-mesure, dit-on à Bercy. Par exemple, si les terrasses rouvrent, ça ne rend pas viable un restaurant. Si les cinémas rouvrent avec des jauges de fréquentation basse, c'est la même chose. Il faudra donc réussir à lever une partie des aides sans tout couper.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. On vous retrouve Emmanuel dans quelques minutes pour votre interview Écho. Ils étaient déjà fragilisés par la fermeture des bars et restaurants, puis le climat a rajouté son grain de sel. Les viticulteurs ont fait les comptes et ils sont alarmants. Le récent épisode de gel va entraîner une baisse de 28 à 30% de la production de vin cette année. C'est considérable. En Côte-du-Rhône, on s'attend à la plus petite récolte de ces 4 dernières décennies. Eux aussi sont très inquiets, ils sont même excédés. Les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais sont ce soir en train de manifester. Ils vont dans la nuit mener plusieurs actions symboliques pour dénoncer les conséquences du Brexit. L'accord signé entre Londres et Bruxelles prévoyait que les pêcheurs français puissent accéder aux eaux britanniques. Or, depuis janvier, seule une poignée de bateaux ont obtenu l'autorisation du Royaume-Uni. Ce que dénonce le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, par ailleurs ancien ministre de la Pêche sous François Hollande.
À la fin de l'année dernière, il avait été présenté un accord sur le Brexit comme étant un accord parfait et où la pêche n'avait pas été sacrifiée. Or, pour un accord qui était parfait, nous sommes le 22 avril et depuis le 1er janvier, les bateaux sont à quai, les licences ne sont pas délivrées pour permettre aux bateaux d'aller pêcher dans les eaux britanniques. Et plus encore, les mesures d'accompagnement des différents pêcheurs ne sont pas mises en œuvre, ni même pensées, pour leur permettre de surmonter cette période d'inactivité. Comment voulez-vous que ces petits artisans pêcheurs puissent, sans même avoir d'activité, en laissant leurs bateaux à quai, comment voulez-vous qu'ils puissent faire face? Donc il faut que l'Europe hausse le ton et force le pas lorsqu'il s'agit du dossier de la pêche, parce que nous voyons que ce dossier, il est dans l'impasse.
Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, joint par Johanna Chabas pour Europe 1. Prenons maintenant la direction de Marseille, où le tribunal correctionnel a rendu cet après-midi son jugement au procès de la BAC Nord. 18 policiers poursuivis pour avoir volé ou extorqué des dealers. L'affaire avait éclaté en 2012 et fait beaucoup de bruit. Et bien 9 ans plus tard, elle fait un peu pchit cette affaire, vu qu'aucun de ces policiers n'ira en prison, Stéphane Frangy.
Oui, des peines avec sursis seulement allant de 2 mois à 1 an sans inscription au casier judiciaire et un soulagement en conséquence immense pour les 18 prévenus accueillis à la sortie du tribunal par de longs applaudissements et des accolades de leurs proches. Dénouement de 9 ans d'instruction, 9 ans de gâchés selon Virgile Reynaud, un des avocats de la défense.
La montagne, je l'avais dit dès le départ, a couché d'une souris. Il faut se poser les bonnes questions. Il y a un retour d'expérience à faire. On vient après 9 ans d'instruction. Eux, ils ont souffert pendant 9 ans. Ils ont eu un écho terrible. Donc il y a une charge émotionnelle qui ressort, vous l'avez filmé. Voilà, tout ça, on aurait pu en faire l'économie.
Voilà, la présidente du tribunal reconnaît tout de même dans sa lecture de graves dysfonctionnements à l'époque dans le service de la BAC Nord. Mais tout ceci n'a pas été vain. Nuance Dominique Allegrini, l'avocat d'un des policiers révoqués.
Elle ne se termine pas comme un pétard mouillé parce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Ça a permis de faire un certain nombre de recadrages qui sont utiles. Mais c'est là qu'on a réussi à poser finalement le juste milieu entre le recadrage utile et le déchaînement absurde auquel on avait assisté.
Et au total, 7 relaxes totales ont été prononcées, mais le parquet conserve la possibilité de faire appel de ce jugement.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Notez que la mère de Mia sera extradée de Suisse vers la France dans les prochains jours. Quant au gourou complotiste Rémi Daillet, la Malaisie où il réside se déclare prête à coopérer avec la justice française, même s'il n'existe aucun accord d'extradition entre les deux pays. Cet homme est soupçonné d'avoir joué un rôle important dans l'enlèvement de la petite fille retrouvée saine et sauve.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
La date n'a évidemment pas été choisie au hasard. À l'occasion de la Journée de la Terre, 40 dirigeants du monde entier se sont réunis par visioconférence pour un sommet sur le climat. Sommet à l'initiative de Joe Biden. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. Le président américain veut remettre les États-Unis au centre de la lutte contre le réchauffement climatique et surtout effacer le bilan de son prédécesseur.
Oui, Joe Biden, pressé de tourner la page Trump, veut réparer les pots cassés. Il avait déjà commencé à le faire dès son arrivée au pouvoir en rejoignant l'accord de Paris sur le climat que Donald Trump avait quitté en fanfare. Alors que son prédécesseur était dans le déni, Biden est alarmiste sur la crise climatique. Il a annoncé aujourd'hui une cible plus ambitieuse que prévue pour les États-Unis.
Les États-Unis ont pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Cette décennie est décisive. C'est une décennie pendant laquelle nous devons prendre des décisions pour éviter les pires conséquences de la crise climatique.
Cet objectif double quasiment l'ancien engagement de Washington. Le président français Emmanuel Macron a salué cette annonce. Plusieurs dirigeants ont applaudi le retour de l'Amérique sur le dossier climatique. Les invités à ce sommet ont tenté de faire figure de bon élève. Le président chinois a réaffirmé l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2060, malgré les tensions actuelles avec Washington. De son côté, l'Union européenne est parvenue à un accord juste avant cette réunion sur une réduction d'au moins 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. On l'apprend à l'instant, une école a pris feu ce soir à Lille après des tirs de mortier. Le feu a depuis été maîtrisé, on vous en dira plus évidemment dans les minutes qui viennent dès que des informations nous viendront de notre correspondant sur place, Lionel Gougelot. Et puis on l'a aussi appris il y a quelques minutes, Emmanuel Macron est arrivé ce soir au Tchad où il assistera demain aux funérailles du président Idriss Déby, tué au front par des rebelles. À son arrivée à l'aéroport de N'Djamena, le chef de l'État français a été escorté jusqu'à l'ambassade de France par des blindés de la force Barkhane anti-djihadiste au Sahel. L'actualité ce soir, c'est aussi le foot et ce coup de tonnerre pour les Girondins de Bordeaux. Le propriétaire, le fonds d'investissement américain King Street, a annoncé qu'il coupait les vivres, plus de financement pour les besoins actuels et futurs de l'équipe. En conséquence, le club a été placé sous la protection du tribunal de commerce. Un mandataire va être nommé pour trouver un repreneur au plus vite et ça s'annonce compliqué vu que le déficit des Girondins de Bordeaux pourrait atteindre les 80 millions d'euros en fin de saison et que l'équipe 16e au classement lutte actuellement pour le maintien. D'où l'inquiétude ce soir d'Eli Bop, ancien entraîneur des Girondins.
C'est un choc, évidemment. C'est quelque chose de très difficile à encaisser pour tous ceux qui aiment les Girondins, pour les supporters, pour tous ceux qui ont connu ce club qui fait partie vraiment de l'histoire du football français. Et l'avenir est incertain parce que là, soit il y a un repreneur et le déficit est conséquent, le rachat du club, je veux dire, il faut beaucoup d'argent. Soit c'est direction nationale 3 et c'est terrible pour tous les gens qui travaillent là-bas, pour tout ce que se représente aussi ce club, pour le football français, pour la ville, pour tous ces supporters qui sont nombreux. Voilà, c'est vraiment une cata, quoi. Voilà.
Élie Baupe, joint par Corinne Boulou pour Europe 1. On termine sur une note positive avec cette nouvelle prouesse sur la planète rouge. Persévérance, le rover de la NASA a fabriqué de l'oxygène en transformant du dioxyde de carbone issu de l'atmosphère de Mars. Et c'est la première fois qu'on y arrive sur une autre planète. Le robot a produit au total 5 grammes d'oxygène, de quoi permettre à un astronaute de respirer pendant 10 minutes. Lui respire ses dernières bouffées d'air frais. Thomas Pesquet s'apprête à décoller pour la Station Spatiale Internationale. Lancement prévu demain à 11h49, si bien sûr les conditions météo le permettent. Et justement, la météo, on y vient. Anissa Haddadi, la journée de demain sera la plus belle de la semaine.
Oui, parce que Julien, demain, le soleil est au rendez-vous pour tout le monde, sans exception. C'est une très belle journée printanière qui s'annonce. Nous aurons quelques petits cumulus qui bourgeonnent sur le Massif central et les Alpes, mais sans danger. Dans le sud, le vent d'OTAN souffle encore, hein, demain jusqu'à 70 km/h. Sur les côtes de la Manche, nous avons toujours ce petit vent d'est, là aussi, qui reste sensible. Les températures, elles sont fraîches dans le nord, avec des gelées sur la Picardie et la Champagne. Ailleurs, nous aurons 2 à 12 degrés, 2 pour Lille, 5 à Paris et Dunkerque, 9 pour Quimper et Bordeaux et 12 degrés à Nice. Et puis au meilleur de la journée, ça grimpe grâce au soleil. Demain, 14 degrés à Boulogne-sur-Mer, 15 à Cherbourg, 17 à Nancy et Belfort, 20 degrés pour Paris et Bastia, 22 à Rennes et Lyon, 23 degrés à Brest, 25 à Bordeaux et 26 degrés du côté de Mont-de-Marsan.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamo de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Comment faire sortir l'épargne des Français pour relancer la croissance? Une idée, les tickets restaurants. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamo ce soir de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine en forte baisse ce soir.
Oui, finalement, ça accélère. Hein, ça accélère à la baisse. Le Dow Jones, moins 1% pratiquement, moins 0,94%, 33 816 points. Le Nasdaq, moins 0,94 aussi, 13 818 points. Plusieurs rumeurs font état ce soir d'une possible hausse de la taxation boursière aux États-Unis qui pourrait doubler autour de 40% dans le cadre du vaste plan budgétaire que va présenter Joe Biden la semaine prochaine. On parle aussi d'un impôt sur la fortune. Ça fait débat sur le marché et ça plombe l'ambiance. On en saura plus donc la semaine prochaine. Des recettes qui serviraient à financer un vaste plan famille aux États-Unis. Du coup, ce soir, tout baisse. Il y a des prises de bénéfices un petit peu partout. Le rebond d'hier est déjà oublié. Les banques, Goldman Sachs, moins 1,3%. Citigroup, moins 1,2%. JP Morgan, moins 2%. On a aussi toutes les valeurs de technologie qui baissent. Apple, moins 1,2% sous les 132 dollars. Tesla repère plus de 3%. Amazon, moins 1,6%. Intel, moins 1,8%. Facebook, moins 1,6%. Et IBM, moins 1,6% aussi. Donc, tout est rouge ce soir à la clôture à Wall Street. L'euro sur les devises campe au-dessus des 1,20. Il ne bouge pas face au dollar.
Si c'est rouge à Wall Street, c'est vert en revanche pour la Bourse de Paris qui a prolongé son rebond de la veille avec l'aide du secteur du luxe.
Effectivement, plus 0,9% sur le CAC 40, 6 267 points. Le luxe grimpe encore. Cette fois, c'est avec Hermès à 1047 euros, plus 2%. Hermès qui a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 44% à plus de 2 milliards d'euros, soit nettement plus que ce que le marché attendait. Et puis, il y a les valeurs industrielles aussi qui remontent comme Alstom, plus 4,5%, 47,43 €, largement aidé par une note de la Deutsche Bank qui vise un cours de 52 euros sur Alstom. Ça suit derrière sur Valeo, plus 4%, Safran, plus 3,5%, on a Airbus, plus 2,5% et Thales aussi en hausse de 2%.
Exception du jour, le titre Orange qui n'a pas profité du mouvement de hausse.
Moins 1,6%, 10,31 €. Orange a annoncé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse modeste de 0,5%. Et puis l'EBITDA recule légèrement de 0,3%. Des chiffres assez ternes, on va dire, du côté d'Orange qui baisse ce soir d'1,6%, 10,31 € pour le titre Orange. Sur les autres places financières, ça monte effectivement en Europe, un petit peu partout. Le DAX plus 0,8%, Milan plus 1%, Bruxelles plus 1,2%. Et donc le CAC 40 en hausse de 0,91%, 6 267 points.
Merci beaucoup Didier Hamo de boursier.com et à demain. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Bertrand Dumazy.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG d'Edenred. Alors, on ne vous connaît pas encore tous sous ce nom-là. Hein. C'est vous notamment qui avez les fameux tickets restaurants. Alors, c'est une des activités d'Edenred. Vous êtes présent dans 45 pays dans le monde avec des solutions comme ça, notamment de plus en plus numériques pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse faire des cadeaux. Ce qui est intéressant quand on regarde vos résultats, en tout cas votre chiffre d'affaires du premier trimestre, c'est que vous résistez quand même très très bien. Comment c'est possible alors que tout ce que vous proposez logiquement est quasiment à l'arrêt, notamment en France.
Oui, c'est vrai qu'on fait plus que résister. En fait, on est en croissance depuis la deuxième partie de l'année 2020 et le premier trimestre de l'année 2020 a marqué une accélération de cette croissance avec une croissance de notre chiffre d'affaires de 3,6%. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent en fait notre capacité à croître, même dans des pays qui sont à l'arrêt. D'abord, sur notre programme phare que vous avez cité, que sont les tickets restaurants, en fait, ça n'est pas parce que les restaurants sont fermés que les restaurants ne fonctionnent plus. Les cuisines continuent à fonctionner. Il s'agit de se faire livrer ou d'aller chercher ce qui a été préparé. Et les solutions Edenred permettent cela, puisqu'on est connecté désormais avec plus de 100 plateformes dans 16 pays différents. On a été les premiers à signer avec Uber Eats ou Deliveroo en 2018. Et sachez que le mode de consommation, de restauration des Français a évolué, s'est adapté à la situation de confinement.
C'est ça qui est très intéressant quand on regarde votre chiffre d'affaires. Ça montre aujourd'hui l'adaptation des restaurants. Il y en a une bonne partie qui arrive à continuer un petit peu à travailler parce qu'ils font du click and collect, de la livraison à domicile via les plateformes que vous venez de citer. On voit que ça fonctionne quand même en partie malgré la fermeture.
Ça fonctionne très bien malgré la fermeture. Pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre de transactions en France sur le premier trimestre 2021 de commandes qui ont été passées via Edenred vers des sites de livraison ou de takeaway a été multiplié par 6. Aujourd'hui, vous avez plus de 10% des porteurs de cartes Edenred qui accèdent à la restauration via une formule de livraison ou de takeaway au pied du restaurant. Donc oui, les Français se sont adaptés, qu'ils soient restaurateurs ou consommateurs.
Et j'imagine aussi que tous ceux qui sont en télétravail et qui peuvent continuer pour certains à bénéficier des tickets restaurants, ça fonctionne aussi, il faut bien manger à un moment. Donc on s'en sert juste pour déjeuner à la maison.
Absolument. Et vous dites qu'ils peuvent, mais moi je dis qu'ils doivent. C'est-à-dire qu'au nom de l'égalité, quand je suis mis en télétravail ou que je choisis le télétravail, je dois continuer à avoir des tickets restaurants. Aucune différence de traitement ne doit être faite. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie l'a rappelé lors d'une interview il y a quelques semaines.
Alors je disais ça parce que, à l'inverse, certains qui ont des cantines, certaines entreprises viennent compenser et dans ce cadre-là offrent des titres restaurants qu'elles n'avaient pas obligatoirement. Donc c'est un mixte entre les deux.
Absolument.
Donc ça, ce sont des points extrêmement importants, de voir que ça continue de plutôt bien fonctionner. Ce qui est très intéressant aussi avec vous, Bertrand Dumazy, c'est que vous êtes très en pointe sur ce qu'on appelle l'argent fléché. Parce que vous dites que grâce à votre solution, c'est facile de dire, si on veut que l'argent arrive là, nous on sait faire. Alors donnez-moi la meilleure des idées possibles pour faire sortir l'épargne des Français et pour soutenir la reprise.
Alors écoutez, moi je pense que d'abord l'épargne des Français a cru de 100 milliards en 2020. Si on veut sortir rapidement de la crise, il faut que cet argent soit dépensé. Et ce serait mieux que cet argent soit dépensé aux bons endroits, c'est-à-dire aux endroits où ça a le plus souffert. La restauration, le tourisme, la culture, mais ce serait bien aussi que ce soit une consommation un peu plus verte. Alors je vais vous donner 2-3 exemples et on parle de milliards qui peuvent être réinvestis assez vite. Là, on a parlé de la restauration. Il y a plein de pays qui disent mais ça marche bien ces histoires de titres restaurants parce que ça génère du volume chez les restaurateurs. Alors accélérons. Les Turcs ont augmenté le montant de 20%. En Autriche, ça a été multiplié par 2. Et donc, vous avez beaucoup de pays en Europe qui disent il faut continuer.
C'est quel cas aussi en France. En France, le plafond a été augmenté pour les restaurants, pour les dépenses dans les restaurants.
Attention, le plafond de dépenses journalières a été augmenté de 19 à 38 euros. Mais le montant total disponible par mois est resté le même. Donc, l'entrée d'argent est toujours au même niveau, la sortie est facilitée.
Ah oui, ce que vous voulez dire, c'est offrir un montant plus élevé, par exemple, pour vos tickets restaurants aux collaborateurs pour qu'ils aient plus d'argent à dépenser, notamment dans les restaurants lors de la réouverture progressive aux alentours de la mi-mai.
Exactement. Et notre proposition est simple, et vous l'avez entendu plusieurs fois. Passons la valeur faciale journalière du ticket restaurant de 10 à 15 euros. Les Turcs l'ont fait, les Roumains l'ont fait à plus 30%. Nos amis autrichiens l'ont fait. Faisons-le en France. Première idée.
Qu'est-ce que vous répond le ministère de l'économie avant d'en venir à la deuxième idée ?
le ministère de l'économie prend bonne note de nos propositions et y réfléchit.
Alors, deuxième idée, Bertrand Dumazy.
Deuxième idée, et encore une fois, il s'agit de faire simple et rapide. Vous avez en France un autre système qui s'appelle le ticket cadeau. Le ticket cadeau, le montant de dépenses est passé de 170 à 340 euros le 17 décembre de l'année 2020. Ça a duré 3 semaines. En 3 semaines, vous avez eu 200 millions d'euros de consommation supplémentaire qui ont été générés. Ça marche. Et donc, cette mesure qui est provisoire, pérennisons-la. Donnons la possibilité aux CE de dépenser leur argent, de le dépenser via du ticket cadeau à des employés français qui n'auront pas été gâtés en 2021 par des augmentations de salaire très modestes. Donnons-leur l'occasion de dépenser plus d'argent. Un, l'argent des CE qui est bloqué, et deuxièmement, leur propre argent, puisque chaque fois que vous recevez 1 euro d'un comité d'entreprise, en général, vous l'abondez d'à peu près 50%. Donc vous avez un effet multiplicateur.
Vous allez gagner beaucoup d'argent si on utilise toutes ces solutions. Est-ce qu'on réduit un petit peu les frais de transaction, les commissions prises pour dire, allez, nous on fait un effort, vous l'État vous en faites un et tout le monde en fait un?
Mais on fait des efforts, nous, tous les jours. Je vous rappelle que Edenred investit entre 250 et 300 millions d'euros par an pour le développement de plateformes digitales qui permettent la mise en place de ces solutions rapides. Sans ces investissements massifs qu'on fait depuis des années, la mise en place de ces systèmes ou l'accélération de ces systèmes ne serait pas possible. Et donc les efforts, on n'a pas attendu le Covid pour les faire. On les fait tous les jours, on les fait en France et on les fait partout dans le monde. Je vais vous donner un exemple. Quand le gouvernement roumain nous appelle en disant « Est-ce que vous êtes capable de mettre en place rapidement une allocation digitale pour nos pensionnés âgés qui ne se nourrissent plus ?» On travaille jour et nuit, on utilise nos systèmes qu'on développe et qu'on adapte. Et rendez-vous compte, 150 000 pensionnés roumains qui en quelques jours ont accès à une allocation, qui tombent sur leur téléphone portable. Un gouvernement qui nous dit « mais vous êtes sûr qu'une personne âgée en Roumanie va être capable de s'enregistrer et de l'utiliser ?» 75% de ces personnes âgées avec un âge moyen de 83 ans. 75% grâce à une solution simple qu'on a développée rapidement, 75% ont eu accès très rapidement à cette allocation. Donc oui, Edenred est prêt à faire tous les efforts nécessaires, à travailler jour et nuit pour déployer le plus vite possible, ce qui aidera les plus nécessiteux ou les secteurs qui ont été le plus touchés par la crise.
Un grand merci Bertrand Dumazy. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Edenred, le propriétaire notamment des tickets restaurants. Nous on se retrouve demain 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayac. Vous nous parlerez apéro et alcool, avec modération évidemment, votre invité, le patron de l'enseigne Nicolas. 22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux, qui sont nombreux à revenir sur la conférence de presse de ce soir de Jean Castex. La rentrée scolaire maintenue, les tests massivement déployés, titre Ouest France. Un déconfinement sous conditions, peut-on lire à la une des Échos, si et seulement si la situation sanitaire le permet, précise Laurent Baudin dans l'Alsace. C'est en effet cette phrase qui a ponctué ce soir chaque engagement du Premier ministre. Il faut dire que la situation sanitaire reste extrêmement fragile. Services hospitaliers saturés, propagation de nouveaux variants. Bref, autant de données qui menacent encore la tenue du calendrier envisagé pour un retour progressif à la vie normale, écrit l'éditorialiste de l'Alsace. C'est un peu comme une maison que nous n'habitions plus vraiment, ajoute Denis Domain dans La Nouvelle République. La France rouvre par étapes, pièce par pièce, après une saison de réparations imparfaites et contrariées. Passant de salle en salle, un étage suivant l'autre, Jean Castex fait l'inventaire et pousse quelques volets, beaucoup de ménage à faire encore, des gravats à déblayer, du boulot ingrat. Mais le Premier ministre est là pour ça, écrit l'éditorialiste qui ajoute « Les bonnes nouvelles, le retour au grand air et à la lumière, les opérations portes ouvertes après travaux, tout ça, c'est réservé aux tauliers, logés pour l'heure à l'Élysée. Il semble d'ailleurs qu'il veuille y rester et ceci n'est pas déconnecté de cela. » On termine avec Le Figaro et Libération, deux quotidiens politiquement éloignés, mais que notre astronaute national a réussi à réunir sur leur une respective. Thomas Pesquet s'envole pour 6 mois dans l'espace, titre sobrement Le Figaro. Thomas Pesquet, le maître décolle, peut-on lire en première page de Libé. Décollage prévu demain depuis Cap Canaveral pour une deuxième mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Orbite repetita pour le spationaute qui assurera le commandement de l'ISS cet été. Une première pour un Français. Un départ qui pour l'espace qui ravit l'éditorialiste de Libération. C'est un soulagement de voir quelqu'un qui rehausse la mire quand Covid oblige. Nous regardons nos pieds pour respecter le kilométrage autorisé et restons tétanisés dans un ici-bas de plus en plus là, écrit Luc Levaillant. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la Libre Antenne.
Exactement, et nous, on se retrouve dans une petite demi-heure pour votre flash.
À tout de suite.
À tout de suite.